Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À l'occasion de leur prochain sommet, les 7 et 8 juillet à Hambourg, en Allemagne, les pays du G20 dévoileront une liste noire mondiale des paradis fiscaux. L'enjeu, devenir plus efficace dans la lutte contre la fraude fiscale. Alors la fameuse liste n'est pas encore fixée, mais ses effets se font déjà sentir. Le Panama y figurera-t-il? En tout cas, depuis plusieurs semaines, le pays tente d'y échapper. Il lui faudra convaincre qu'il ne fait plus commerce du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale des autres nations. Difficile de ne pas rester associé aux dérives de la finance mondiale quand l'une des plus grandes révélations de l'histoire sur ces pratiques porte son nom. Il y a un an, en effet, éclatait l'affaire des Panama Papers. Plus d'une centaine de rédactions dans le monde révélaient les activités douteuses du cabinet panaméen Mossack Fonseca. Dissimulation d'actifs, évasion, fraude, blanchiment d'argent. Des milliers de personnes concernées et citées, dont des chefs d'État, des personnalités du sport ou de la culture, et bien sûr des banques. Indignation mondiale qui entraîna notamment la chute du premier ministre islandais. Mais une fois la vague retombée, que reste-t-il du combat contre les paradis fiscaux? Où en sont les enquêtes et la régulation? Fraude fiscale, suffit-il de dénoncer pour empêcher? C'est la discussion que nous aurons ce soir avec trois invités, avec notamment vous, Manon Aubry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du plaidoyer Justice fiscale et inégalité. C'est chez l'ONG Oxfam France. À vos côtés pour discuter, Maxime Vaudano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, membre du service des décodeurs. Vous avez fait partie pendant 9 mois de la cellule du Monde qui a travaillé sur les documents des Panama Papers. Et notre troisième invité, il s'agit de Christian Chavagneux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste éditorialiste au magazine Alternatives économiques. Vous êtes l'auteur, notamment avec Ronan Palant, Les paradis fiscaux dans la collection Repère, la découverte. La dernière actualisation date de 2007.
Non, 2017, janvier 2017.
Je voulais dire 2017, ouais, pardon. Et donc elle comprend l'actualisation des Panama Papers, j'imagine.
Fait. Bien sûr.
Alors, Manon Aubry, Oxfam vient de publier un rapport sur les pratiques d'une cinquantaine de banques en Europe et qui révèle qu'un quart des bénéfices de ces établissements est déclaré dans les paradis fiscaux alors qu'elles n'y réalisent que 12% de leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faut peut-être en conclure, on ne va pas commencer l'émission par une conclusion, mais quand même que les banques restent quand même très liées aux paradis fiscaux?
Très clairement, ce qui ressort de l'étude, juste pour corriger, c'est sur les 20 plus grandes banques européennes et pas les 50 plus grosses banques européennes. Ce qu'il en ressort, c'est que les paradis fiscaux sont encore au cœur de la stratégie internationale des banques européennes. C'est la première fois qu'on faisait une étude de cette portée sur les 20 plus grandes banques européennes. Et ce qui est frappant, c'est en effet ce décalage entre les bénéfices qu'elles déclarent, à savoir en effet un quart de leurs bénéfices, 1 € sur 4 de leurs bénéfices, et ce qu'elles y font réellement dans ces paradis fiscaux, et elles n'ont que 7% de leurs employés. Et donc on voit bien qu'il y a un décalage, que les bénéfices qui sont déclarés dans les paradis fiscaux semblent artificiellement élevés, eu égard à l'activité qu'elles ont dans ces pays. Et c'est comme ça qu'on arrive même à des situations aux limites du réel où on a plus de 650 millions de bénéfices qui sont déclarés sans employés. On a parfois des bénéfices qui sont plus importants que des chiffres d'affaires. C'est le cas notamment de la Société Générale en Irlande. Et puis on retrouve, j'ai envie de dire, les suspects habituels dans les paradis fiscaux, comme notamment l'Irlande et le Luxembourg, qui sont pourtant pas des pays au cœur de la discussion sur la liste des paradis fiscaux, qui montrent aussi un peu la limite potentielle de la question de la liste, parce que le Panama, c'est un petit paradis fiscal, j'ai envie de dire, dans la géographie globale des paradis fiscaux.
Christian Chavagneux, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce décalage entre ce qui est déclaré comme activité et les bénéfices réalisés? Quel est le soupçon là, qui se niche dans ce décalage?
Il y a plusieurs soupçons. Il y a a priori celui d'un transfert artificiel de bénéfices vers ces pays pour bénéficier d'une fiscalité moindre, donc pour la banque. Il y a aussi le fait que sûrement ces banques utilisent ces territoires pour permettre à certains de leurs clients d'échapper à l'impôt. Mais aussi, lorsqu'on regarde plus précisément les comptes des banques, on voit que malheureusement, les paradis fiscaux sont aussi des territoires qui permettent aux banques de se financer de manière à très court terme et donc de cacher une fragilité quelque part du fait qu'elles dépendent des financements à court terme d'un côté et de l'autre côté du fait que ce sont des endroits où elles prennent des risques importants. Quand vous regardez les banques qui ont fait faillite au moment de la crise des subprimes, vous apercevez souvent que dans leurs comptes à Londres, dans leurs comptes à New York, vous voyez rien du tout. Il faut aller se plonger dans les filiales situées dans les paradis fiscaux, disons l'Irlande et les îles Caïmans, pour s'apercevoir que ces filiales ont pris des risques tellement énormes et des paris tellement énormes qu'elles ont perdu que ça va manger toute la banque et ça va entraîner des faillites. Donc des paradis fiscaux qui servent pour les banques. L'évasion et la fraude fiscale pour leurs clients, pour elles-mêmes, pour se financer dans des conditions de fragilité importantes et pour prendre des risques importants aussi.
Maxime Vodano, alors dans ces conditions et ce panorama qui est décrit un an après le scandale des Panama Papers, alors combien de rapports, combien de révélations, combien de scandales faudra-t-il avant que les choses ne changent véritablement ?
Ce qu'on voit, c'est que toutes ces révélations, elles sont utiles, je pense, puisque à chaque fois, ça relance la discussion dans une direction qui est différente, puisque finalement, la problématique, c'est un petit peu comme si on essayait de décoper une baignoire et que voilà et qu'elle était tout le temps remplie à nouveau, parce que finalement, les grands acteurs de ces problématiques-là, les multinationales, les cabinets, les banques, trouvent toujours des nouvelles manières de contourner les règles, de contourner les sanctions, de trouver de nouveaux paradis fiscaux, de trouver de nouvelles méthodes. Et à chaque fois, chaque nouvelle révélation, que ce soit sous la forme d'une fuite de données comme les Panama Papers ou de rapports des ONG, ça nous éclaire sur des nouvelles pratiques et ça actualise et ça remet ces questions-là au cœur de l'actualité. Et il faut remettre ces questions-là puisqu'on a tendance à un petit peu se reposer sur les lauriers en disant que les procédures sont enclenchés, qu'on est en train de trouver une solution, alors que non, il faut tout le temps être sur le qui-vive, puisque finalement, ce monde-là, il est assez résilient et il s'adapte en permanence à toutes les difficultés qu'on peut lui causer.
Alors, toutes les révélations ne provoquent pas forcément des scandales. En l'occurrence, il y a un an, dans la manière dont ont été faites ces révélations, on se souvient, c'était un petit peu en forme de cascade. Hein. Chaque jour, chaque heure, même, il y avait de nouveaux noms qui étaient dévoilés. Est-ce que, dans votre esprit, au Monde notamment, les révélations étaient construites justement pour provoquer le scandale ? Est-ce que ça a été un succès un an après ?
Alors c'est globalement une stratégie globale de l'ensemble des rédactions qui ont travaillé ensemble, donc une centaine de journaux qui étaient coordonnés par un consortium qui s'appelle la CIG. On peut pas nier que c'était construit de façon à créer une vraie prise de conscience. Il y a aussi une raison pratique qui était qu'il y avait des centaines et des centaines de dossiers, donc on pouvait pas tout publier d'un coup. Mais c'est vrai que le fait de séquencer un petit peu en montrant les différents aspects de ce scandale, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait des chefs d'État, qu'il y avait des footballeurs, qu'il y avait des banques, des avocats, et puis que au-delà de ces noms, des gens dont on se souvient peut-être un an après, il y a tout un système. Et donc c'était important de décliner, de montrer toute la panoplie des fraudes et des mauvaises pratiques qu'il pouvait y avoir, qui s'échelonnent en fait de la fraude, ce qui est totalement illégal, jusqu'à la zone grise qui est l'évasion fiscale dont on parlait au début finalement. Parce que les banques qui optimisent dans les paradis fiscaux, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant c'est pas illégal. On appelle ça de l'optimisation fiscale. Ça pourrait le devenir à l'avenir. Mais en fait, la question, c'est de savoir où on fixe la limite et est-ce qu'on peut faire évoluer la réglementation pour que ça devienne illégal, puisqu'aujourd'hui, les multinationales, elles profitent de ces zones grises et du fait que finalement, les pays européens comme le Luxembourg et l'Irlande ne sont pas du tout dans les viseurs et ne seront pas du tout dans la prochaine liste noire des paradis fiscaux, parce que c'est toléré au niveau de l'Union européenne.
Un an plus tard, Manon Aubry, vous avez l'impression que ces révélations ont eu un impact durable sur l'opinion publique ?
Alors, c'est toujours le verre à moitié vide et à moitié plein. Pour être optimiste, je vais commencer par le verre à moitié plein. Clairement, on n'a jamais autant parlé de la question d'évasion fiscale. Elle n'a jamais été autant mise sur la table. Ça n'a jamais été aussi utile dans notre travail de plaidoyer au quotidien. C'est-à-dire que au quotidien, quand on va voir des décideurs politiques, ils ne peuvent plus ignorer le problème.
Comme vous avez senti une différence ?
Il y a une différence au moins dans l'écoute. Alors il y a toujours un pas à franchir entre l'écoute et l'action politique qui peut se traduire par un changement de pratique, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître au scandale des Panama Papers, mais c'est pas le seul d'ailleurs, au scandale LuxLeaks avant sur lequel les journalistes aussi ont travaillé, clairement les journalistes ont joué un rôle majeur, il y a eu aussi davantage de mesures de transparence. C'est important à le noter, le rapport qu'on a pu sortir sur les banques européennes, c'est issu d'une nouvelle mesure de transparence qui s'impose à l'ensemble des banques européennes.
Et qui est née après le scandale les Panama
Papers.
Non,
c'est une directive qui date de 2013 et qui a été progressivement traduite dans le droit national des 28 pays européens. Mais toujours est-il que on avance quand même dans la prise de conscience, on met le doigt sur la face émergée de l'iceberg. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à il y a quelques années. Ceci étant dit, d'un point de vue politique, en termes de changement de ce qu'il faudrait faire, on est encore loin du compte. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il y a une autre image qu'on peut utiliser en plus de la baignoire, c'est comme une course effrénée dans laquelle sont engagées les grandes entreprises multinationales, les cabinets d'avocats, ceux qui profitent de l'évasion fiscale, les plus riches. Ils sont loin devant, en particulier les entreprises multinationales, et elles courent vite. Et nous, société civile, État, gouvernement, on s'est mis à trottiner derrière. Donc forcément, on a l'impression d'avancer, dans la mesure où on s'est mis à trottiner. C'est mieux que de marcher, c'est mieux qu'être à l'arrêt. Mais l'écart pour attraper ceux qui courent loin devant est très lointain. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de très nombreux scandales encore, en particulier s'agissant de l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales, où là, le terrain à franchir est encore plus éloigné. Ce d'autant plus quand ceux qui sont à la tête du système d'évasion fiscale sont des pays comme le Luxembourg et l'Irlande.
Christian Chavagneux, vous avez l'impression que le thème de l'évasion fiscale s'est imposé, on va dire, suffisamment dans la campagne. On est quand même en campagne politique. Est-ce qu'on en parle de manière suffisante, en tout cas? Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux sur le sujet?
C'est pour ça que Manon Bruy n'est pas en marche, d'après ce qu'elle vient de dire. Donc, déjà, c'est une indication. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience politique. Moi, j'ai été surpris, au cours des dernières années, de la façon dont beaucoup d'hommes politiques français, de femmes politiques, se sont saisis du sujet. Moi, j'ai écrit mon premier dossier sur les paradis fiscaux pour dire que c'était de l'évasion fiscale, mais c'était aussi au cœur du fonctionnement de la mondialisation financière en 99. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde interviewé à l'époque quand on faisait un dossier. Aujourd'hui, vous avez une bonne quinzaine de députés, alors c'est vrai, plutôt écologistes et de gauche, qui ont complètement investi le sujet. C'est un sujet technique, hein, faut rentrer dans la technique de la finance, des banques. Ils ont fait cet effort et aujourd'hui, en France en tout cas, on trouve une bonne quinzaine de députés qui portent le projet. Manon Aubry et d'autres ONG organisaient lundi dernier une grande soirée avec des représentants des candidats. Malheureusement, je ne sais pas si c'est un hasard, celui de M. Fillon n'a jamais pu se déplacer, donc il n'est pas venu. Mais on a eu beaucoup d'autres candidats qui sont venus nous faire des propositions, pour certains des propositions sérieuses, hein, pour Macron, pour Mélenchon, pour Benoît Hamon. Il y avait quelques petits candidats aussi. On adhère ou on n'adhère pas à leurs propositions, mais en tout cas, c'est la première fois, me semble-t-il, que dans une campagne présidentielle, il y a la possibilité d'organiser ce débat. Il y a des gens qui se déplacent et qui viennent faire des propositions, même si dans les programmes concret aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a pas grand chose, hein, pour être précis.
Justement, les programmes, Maxime Vaudano, vous avez, j'imagine, au décodeur, largement épluché les programmes des uns et des autres, notamment sur cette question. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un petit peu des propositions nouvelles, novatrices, concrètes, sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale?
Novatrice, j'ai pas l'impression. Après, il y a beaucoup de grandes déclarations d'intention, notamment sur la question qu'on a déjà abordée de l'optimisation fiscale à l'intérieur de l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui, en fait, est sur la table depuis longtemps. François Hollande le promettait déjà en 2013,
Sarkozy, et finalement,
ce qu'on constate, j'ai l'impression, c'est quasiment un recul. Si on regarde par exemple le PS, si on compare Hamon et François Hollande, en 2012, il voulait complètement interdire aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux. Et ce qu'on a constaté avec les Panama Papers, c'est que ça n'a pas été le cas et que le patron de la Société Générale a pu mentir devant la représentation nationale sans subir aucune poursuite. Donc c'est vrai qu'il y a certes des avancées dans les programmes, mais on est sur des grandes déclarations d'intention. Alors forcément, c'est difficile, hein, ça ne relève pas que du président français de faire avancer ces sujets-là, mais voilà, ça doit faire partie normalement des grands chantiers du futur président, je pense.
Christian Chavagneux.
Il y a peut-être un peu de réalisme aussi, hein. Interdire, on peut pas dire d'un côté que toutes les grandes banques françaises et européennes sont dans les paradis fiscaux et une bonne partie de leur activité est structurée autour des paradis fiscaux, et dire que le lendemain matin on va interdire aux banques françaises d'être dans les paradis fiscaux. On va tuer le système bancaire européen, malheureusement. Si on ferme les paradis fiscaux demain matin, par exemple, ça veut dire que l'ensemble du système bancaire français, que beaucoup de multinationales françaises ne fonctionnent plus. Je le regrette, hein, bien sûr, c'est un malheur. Donc peut-être il y a un petit peu de réalisme aussi dans les propositions de Benoît Hamon. Par exemple, on avait Eva Joly lundi soir qui défendait le programme de Benoît Hamon. Il y avait des choses vraiment intéressantes. Il y a un blocage du Conseil constitutionnel en France. Beaucoup de propositions de loi ont été faites et le Conseil constitutionnel, à chaque fois, a dit non, pour telle et telle raison, on ne peut pas avancer. Bon, Eva Joly, elle propose une mesure pour aller au-delà de ça. Ça, c'est un vrai déblocage, je dirais, qui est proposé par la classe politique. Et ça, c'est une véritable avancée.
Alors, je vais vous faire écouter un exemple hein, parmi d'autres, parce qu'ils sont beaucoup, ils sont 11 candidats. C'est la proposition de François Asselineau pour lutter contre l'évasion fiscale.
Non seulement il faudra recréer le contrôle des mouvements de capitaux, mais les autres pays de l'Union européenne nous y inciteront. Je suis persuadé que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, eh bien, seront les premiers à réclamer un retour du contrôle de mouvements de capitaux. Ils l'avaient fait au moment de la crise de l'euro à Chypre. Voilà. Donc il y aura un contrôle des mouvements de capitaux qui s'installera pendant quelques temps, bien entendu. Et puis une fois qu'on sera sorti de l'euro, qu'on aura créé un nouveau franc, vous le savez, je veux réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux de toute façon. C'est ce qui préexistait en France de toute éternité jusqu'à 1992. Et je rappelle que c'est ce qui existe dans le reste de tous les pays du monde, en dehors de l'OCDE, c'est tout. On va donc engager un cercle vertueux qui va complètement changer, je pense, en 2 ans, la physionomie de la France. Je m'y engage.
Contrôler les mouvements de capitaux, Christian Chavagneux, est-ce que c'est un pilier efficace? Est-ce qu'on a de la marge de manœuvre sur ce domaine-là?
Je ne sais pas, vous voulez mettre des contrôleurs de capitaux dans les ordinateurs qui vont empêcher les petits bitcoins de passer? Non, je pense que ça, c'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, il y a un effort de coopération internationale qui est réalisé et qui est poussé par les ONG. Il faut, si je peux me permettre, je crois être le plus ancien des trois intervenants. En 1996, il y avait un appel des juges qui était multinational, hein, l'appel de Genève, et qui a commencé à éclairer, je dirais, le grand public pour dire attention, les paradis fiscaux, ils sont là. Les ONG, pourquoi elles réussissent aujourd'hui? Parce qu'elles sont aussi internationales que les fraudeurs, aussi internationales que les banques et que les grandes multinationales. Elles réussissent parce que aussi, moi je suis très très surpris, entre 2000 et maintenant, le niveau technique des commentaires des ONG a considérablement augmenté. Au début des années 2000, on avait des
vous
militants
flatter, Manon,
qui disaient,
je sais pas si je dois le prendre personnellement.
C'est pas bien. Aujourd'hui, vous avez par exemple à l'OCDE, il y a le projet qui essaie de contrer l'optimisation fiscale agressive des multinationales, ça s'appelle le projet BEPS. Vous avez un BEPS Monitoring Group qui est fait à partir de l'Angleterre, mais vous lisez les commentaires techniques de ces gens d'ONG, ce sont des spécialistes, ils sont largement au niveau des meilleurs fiscalistes mondiaux, à tel point que à l'OCDE, et je ne révèle pas un secret en disant ça, on les consulte aujourd'hui pour savoir comment faire évoluer la législation internationale pour contrer les pratiques d'optimisation fiscale agressive. Donc, parce que les ONG, parce que les juges, parce que la société civile est montée de niveau technique et qu'elle est devenue vraiment importante et de bon niveau, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le Crédit Suisse qui est mis en cause il y a 2-3 jours, la semaine dernière, et dans Le Monde, vous avez une pleine double page, comme dans le Figaro, comme dans les grands journaux anglo-saxons, on dit le Crédit Suisse applique une politique stricte de tolérance zéro s'agissant de l'évasion fiscale. Vous avez cette banque suisse qui n'a pas beaucoup vraiment de clients en France, qui est obligée de se payer une double page dans Le Monde et dans tous les autres grands journaux pour dire attention, attention, on a attaqué, mais nous on est des gens très sérieux, hein, l'évasion, la fraude fiscale, on ne fait pas. Voilà un point important qui montre que ce combat, on est en train de le gagner, de commencer à le gagner.
Manon Aubry.
Je pense qu'il y a vraiment changé au-delà de notre montée en compétences. Merci Christian. Mais je pense qu'il y a la vraie différence par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on est entendu et écouté. Quand on parlait des questions d'évasion fiscale il y a 5 ou 10 ans, parce que Oxfam faisait partie des premières ONG qui a commencé à travailler sur le sujet au niveau international, clairement on avait peu d'écoute, y compris de l'écoute médiatique. Et je pense que le fait qu'on consacre une émission de presque une heure aujourd'hui à une heure de grande écoute et un bon témoin de l'évolution des mentalités sur ces sujets et de la mobilisation du grand public, surtout dans des contextes d'austérité, où finalement, ce que je pense que c'est important à le garder en tête, quand on parle d'évasion fiscale, derrière les enjeux techniques, qui sont à la rigueur ce sur quoi nous on travaille au quotidien, mais je pense qu'il faut le remettre dans le contexte de ce que veut dire l'évasion fiscale pour chacun d'entre nous. L'évasion fiscale en France, on considère que c'est entre 60 et 80 milliards d'euros, il y a toujours un débat sur le chiffre, mais c'est une somme importante, à peu près l'équivalent du budget de l'éducation nationale, mais derrière l'impact pour les États, il est double. Soit d'un côté, bah, ils coupent dans leurs dépenses publiques, parce que qui dit moins de recettes dit moins de dépenses publiques. Soit, deuxième alternative, ils augmentent d'autres impôts, comme la TVA par exemple. Et on parlait tout à l'heure de la campagne pour les élections présidentielles. On entend relativement peu parlé d'évasion fiscale. En tout cas, c'est inégal d'un candidat à l'autre. En revanche, ce que j'ai beaucoup entendu de la part des candidats, c'est l'augmentation de certains impôts plus injustes, comme la TVA notamment, ce qui pour moi traduit un aveu d'échec sur la taxation des entreprises multinationales.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Fraude fiscale, suffit-il de dénoncer pour empêcher? On en discute jusqu'à 19h avec Manon Aubry d'Oxfam France, Maxime Vaudano des décodeurs au monde.fr et puis Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Pour revenir un peu sur le scandale donc des Panama Papers, il y a un an, Maxime Vaudano, l'un des points qu'a ciblé la stratégie quelque part, c'était aussi de révéler des noms. Il y a des noms ont été mis sur la place publique, de chefs d'État, de footballeurs, de personnalités. Est-ce que la réputation de ces personnes-là, finalement, c'est le principal point faible des fraudeurs, mais aussi des paradis fiscaux? C'est la réputation, c'est là qu'il faut appuyer pour que ça fonctionne.
Oui, c'est sûr, c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est vrai qu'il y a un aspect très dissuasif dans ce genre de révélation. Si vous êtes un ménage français qui fait de l'évasion de la fraude fiscale depuis des années tranquillement en faisant appel à des intermédiaires suisses et panaméens, et que vous apercevez que votre nom va potentiellement arriver sur la place publique, soit pendant les Panama Papers, soit pour le prochain scandale qui peut-être arrivera, peut-être que vous allez réfléchir à deux fois avant de vous y mettre. Et c'est vrai qu'on voit que il y a eu pas mal de Français qui se sont spontanément dénoncés à l'administration fiscale après ce scandale, comme après d'autres scandales. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 400 contrôles fiscaux qui sont en cours. Donc les journalistes ne sont pas des auxiliaires de justice ou du fisc, mais il y a un effet indéniable de dissuasion pour les gens, non seulement parce que ça va leur entraîner des pénalités fiscales, voire des poursuites judiciaires, et en plus si c'est des gens connus ou qui ont des intérêts économiques importants, ils sont pas très contents généralement de voir leur nom publié. Et donc on a eu des frictions assez importantes avec les personnes dont on a publié les noms, puisqu'ils sont, ils n'ont aucune envie d'apparaître liés à un tel scandale. Et je pense que certains réfléchiront à deux fois avant de mettre en place de tels mécanismes pour optimiser ou pour carrément frauder les impôts la prochaine fois.
Vous avez dit les journalistes ne sont pas des auxiliaires du fisc. Néanmoins, j'imagine que pour vous, c'est pas évident de trouver la limite entre. Il s'agit tout de même de dénonciation. Déontologiquement, ça vous a posé des questions quand même?
Alors c'était très difficile et ça nous a animé. Ce débat nous a animé pendant plusieurs mois. Les noms des personnes qu'on a publiées, ce sont des noms déjà de personnes qui ont une certaine responsabilité. Soit politique, soit économique, soit culturelle, soit sportive. Il y avait par exemple Lionel Messi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas un responsable politique, mais qui porte quelque chose et qui a quand même une importance dans notre société. Et le deuxième critère, c'était qu'il y avait un vrai soupçon d'illégalité. Il y a des célébrités françaises dont nous n'avons pas publié les noms parce que au terme de l'enquête, il s'est avéré que c'était quelque chose qui n'était pas illégal. Donc voilà, on avait vraiment ces deux critères-là en tête pour publier des noms. Et ensuite, le consortium international ICIJ qui coordonnait l'enquête a décidé de publier une base de données, une partie des Panama Papers, mais qui ne contenait aucune information personnelle et qui contenait simplement le registre des sociétés internes au cabinet Mossack Fonseca, donc le cabinet panaméen d'où étaient issues les données. Et en fait, la logique qui était derrière ça, c'est de dire que si on était dans des pays normaux, qu'on n'était pas au Panama ou aux îles Vierges, ça serait des informations qui seraient publiques, qui seraient au registre du commerce. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu forcé la publication du registre du commerce. Et voilà, ces informations-là, elles ont ensuite été utilisées par le fisc, mais ça, c'est pas de notre responsabilité.
Manon Aubry.
Je pense que cette volonté de dénonciation et l'impact que ça a est assez différencié en fonction des maillons de la chaîne de l'évasion fiscale. Si on pense l'évasion fiscale comme ayant différentes composantes et différents maillons pour arriver à pouvoir faire de l'évasion fiscale, on a au bout de la chaîne ceux qui en profitent, en l'espèce des personnes connues dont les noms ont été sortis par la presse. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que un tel système d'évasion fiscale ne serait pas possible sans les maillons précédents. Et dans ces maillons précédents, on a les facilitateurs, à savoir Mossack Fonseca, à savoir les banques, et j'ai envie de dire en premier chef, on a des paradis fiscaux qui offrent ce système très favorable d'un point de vue de l'imposition.
Vous voulez dire que c'est d'abord eux qu'il faut dénoncer ?
Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Ce que pointe les différents scandales les uns après les autres. Au-delà des personnes, on peut se souvenir des personnes, mais ce qui est important à garder en tête pour nous, les ONG qui travaillons sur ces questions-là, c'est le système et quels sont les différents maillons de la chaîne et comment on intervient sur ces différents maillons de la chaîne. Et en l'occurrence, la Société Générale, quand on a regardé de plus près, c'était sa filiale au Luxembourg qui avait créé le plus de sociétés offshore. L'année suivante, la filiale luxembourgeoise avait une activité tout aussi importante et la Société Générale réalisait plus de 500 millions de bénéfices au Luxembourg. Donc on voit a priori que c'est une activité lucrative et qui n'est pas en relation avec l'activité que devrait mener la Société Générale au Luxembourg. Et au-delà, ce qu'on oublie dans le scandale des Panama Papers, ça a le nom du Panama, mais en réalité, le pays dans lequel il y avait le plus de sociétés offshore qui avaient été créées, c'était par exemple les îles Vierges britanniques. Pas le seul pays, mais parmi les pays. Et quand on a des débats sur les listes et autres, on voit bien que rien ne s'est passé sur les îles Vierges britanniques, encore moins sur un pays comme le Luxembourg, d'où venait la facilitation et d'où opérait un certain nombre de grandes banques européennes pour faciliter ce système d'évasion fiscale. Et donc, la dénonciation est utile s'agissant de ces acteurs économiques et de ces pays, mais il faudra aller plus loin, il faudra faire de la régulation, parce que peut-être que Lionel Messi, qui a été pris la main dans le sac, ne va pas refaire l'évasion fiscale, mais Mossack Fonseca et d'autres cabinets d'avocats et les paradis fiscaux continuent à opérer.
Christian Chavagneux, sur ces listes noires, alors donc il y a la dénonciation des fraudeurs, mais donc la dénonciation, on en parlait en début d'émission, des pays qui pratiquent des paradis fiscaux, ces fameuses listes noires, est-ce que ce sont des moyens de pression efficaces, appuyés sur la réputation des pays? Là on le voit, le Panama essaye de ne pas être inscrit sur la fameuse liste noire du G20 qui sera dévoilée en juillet, c'est donc un moyen de pression quand même efficace?
Juste un petit mot avant, si vous me permettez, sur la dénonciation, puisqu'on a dit, Maxime Audano a rappelé que quand les particuliers ont peur d'être dénoncés, ils viennent se dénoncer à une sorte de cellule de régularisation que Bercy a mis en place et ça rapporte quand même entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros de recettes fiscales par an, les gens qui viennent s'auto-dénoncer. On peut peut-être se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas ouvrir une telle cellule pour les entreprises qui souhaiteraient solder le passé en disant « Ok, on a triché, on a fait de l'optimisation fiscale agressive, mais on a besoin d'une cellule, on va payer nos impôts de retard, on va payer des pénalités. Peut-être que ce qui a marché pour les particuliers pourrait peut-être marcher pour les entreprises. »
Est-ce qu'ils bénéficient d'exonération, d'amendes en échange de ce retour au bercail, retour au fisc?
On paye les impôts de retard, on paye des pénalités, on paye une amende. Donc il n'y a pas d'amnistie fiscale. Juste, si on vient se dénoncer, on échappe à un procès. Donc on échappe au fait d'avoir publiquement, comme l'héritier Nina Ricci par exemple, le fait d'avoir un procès public qui non seulement condamne Madame Ricci, mais pour la première fois condamne l'avocat. Ce qui est quand même quelque chose d'assez important pour répondre un petit peu à Manon Aubry. On commence à s'attaquer peut-être un petit peu aux intermédiaires. Alors pour répondre à votre question directement sur la liste, moi j'y crois pas du tout. Pourquoi? Une liste européenne, par principe, ne pourra jamais inclure un pays de l'Union européenne. Or, nous, s'il y a vraiment une des conclusions qu'on peut tirer d'une approche historique de fraude et d'évasion fiscale, c'est que on fraude plutôt avec ses voisins. Oui, on peut, quand on est français, aller chercher les îles Caïmans, les Panama, etc. Mais l'organisateur de la fraude et les intermédiaires sur lesquels vous appuyez sont plutôt proches de vous. Et donc, pour nous, le problème, pour nous, Européens, le problème, c'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, c'est le Luxembourg. Donc, si dans une liste européenne, on peut jamais mettre ces pays, ça ne sert à rien. Vous rentrez, vous sortez plus vite que vous rentrez et il y a des considérations politiques qui sont beaucoup plus fortes que des considérations d'efficacité. Et enfin, pour ce qui concerne le travail des banques dans les paradis fiscaux, alors c'est vrai qu'on fait des choses contre les particuliers, on fait des choses contre l'utilisation des paradis fiscaux par les multinationales, mais sur les banques et le fait qu'elles prennent des risques dans ces territoires, le G20 nous avait promis, le G20 de Londres d'avril 2009 nous avait dit « c'est un vrai problème, on va faire quelque chose » et là on n'a rien fait du tout.
Maxime Fodano, et concernant les intermédiaires, donc typiquement ce cabinet Mossack Fonseca au Panama, que devient-il aujourd'hui? Alors il se trouve que les deux dirigeants, je crois, sont en prison, mais alors pour des affaires différentes, s'agissant d'un autre scandale, celui du lavage à taux au Brésil. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que le cabinet a quand même été un peu secoué, affaibli, pas du tout, par la crise des Panama Papers?
Bon, c'est vrai que Mossack Fonseca va probablement pas survivre aux Panama Papers, mais c'est qu'un cabinet parmi des dizaines. C'est vrai qu'actuellement, bon bah il y a ces deux fondateurs qui sont en prison, il a fermé 10 bureaux et licencié 250 personnes, donc disons que c'est assez mal parti pour continuer. Et puis surtout, sa réputation est totalement détruite, alors que ce genre de cabinet d'avocats, sa crédibilité repose sur le secret. Et une telle fuite et une telle catastrophe en termes d'image, elle peut être que néfaste pour pour attirer de futurs clients. Donc je pense que le cas Mossack Fonseca sera réglé dans les prochaines années, mais malheureusement c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ne serait-ce qu'au Panama, il y a deux concurrents qui sont encore plus importants et qui continuent de prospérer. Et voilà, et il a fallu quand même ce scandale pour que le fondateur de Mossack Fonseca quitte un poste de conseiller spécial du président du Panama qu'il occupait depuis longtemps. C'était un ami proche du président, et il a fallu qu'il y ait cette dénonciation là pour que cette personne qui couvrait du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale depuis des années sorte du giron du président du Panama. Donc voilà, ça a changé des choses au niveau du Panama, mais comme disait Manon Aubry, il faut pas se concentrer seulement sur le Panama, puisque les Panama Papers c'était l'origine, mais ce cabinet, il était présent dans une vingtaine de territoires dans le monde, et voilà, il faut pas relâcher les efforts parce qu'il y a énormément d'autres acteurs qui prospèrent dans le reste du monde.
Alors justement, sur ces types d'intermédiaires, là typiquement dans cet exemple, les clients qu'a perdu hein, le cabinet Fonseca, est-ce que c'est la concurrence qui va les récupérer, ou bien est-ce qu'on peut quand même espérer un effet dissuasif sur les autres cabinets, ces fameux concurrents? Est-ce qu'on peut espérer qu'ils réduisent d'eux-mêmes les pratiques frauduleuses, ou est-ce qu'ils vont juste tout simplement récupérer les clients?
C'est assez peu probable. En fait, disons qu'il y a Mossack Fonseca avait déjà une assez mauvaise réputation, et en fait, qui profite aujourd'hui de la chute de Mossack Fonseca, ce sont ses concurrents qui ont une meilleure réputation. On appelle ça, le cercle doré de l'offshore. Donc il y a une série d'une dizaine de cabinets qui ont une excellente réputation, qui ont pignon sur rue, qui sont dans des capitales européennes et qui continuent de pratiquer ça. Donc eux, ils disent qu'ils sont dans la stricte légalité, contrairement à Mossack Fonseca. Mais c'est toute cette zone grise qui aujourd'hui permet à ces intermédiaires de prospérer. Et puis si on regarde, parce qu'il y a toute une série de maillons de la chaîne, il n'y a pas seulement Mossack Fonseca d'un côté et le riche français de l'autre. Il y a un avocat suisse au milieu, par exemple. Et quand on regarde quelqu'un comme Marc Bonan, qui est un avocat suisse qui apparaissait énormément dans les Panama Papers, c'est quelqu'un qui apparaît dans chacun des scandales depuis 3 ans. Il apparaissait déjà dans Offshore Leaks, dans Swiss Leaks, dans Panama Papers. C'est des gens dont c'est le métier et qui mettent pas tous les œufs dans le même panier, et qui probablement continuent à travailler avec énormément d'autres cabinets. Et si ça marche plus au Panama, si ça marche plus avec Mossack Fonseca, ils iront ailleurs et ça pose pas de problème.
Manon Aubry, ce cercle restreint, je connaissais pas. Vous avez dit comment le cercle
d'or, doré, le cercle
le
d'or,
cercle, cercle doré de l'évasion fiscale, il est pour l'instant inatteignable.
Bah, comme je disais tout à l'heure, on commence à l'atteindre à travers des informations qu'on peut obtenir, souvent grâce d'ailleurs au courage de lanceurs d'alerte. Donc il faut souligner, parce que on n'aurait pas eu toutes ces informations dans les différents scandales de ces dernières années sans des lanceurs d'alerte qui dénoncent ces informations et qui par ailleurs sont souvent poursuivis en justice. Ça a été le cas notamment des lanceurs d'alerte sur le cas LuxLeaks au Luxembourg. Mais toujours est-il qu'on commence à mettre un doigt sur cette face émergée de l'iceberg quand on nous donne des informations, souvent aux journalistes, mais en réalité ça cache un iceberg qui est très large, qui prend peut-être toute la mer et les océans, et donc au final on donne juste plus de temps à d'autres cabinets notamment de se renouveler dans leurs pratiques, de s'adapter, y compris à l'évolution des régulations au niveau international, parce que ça bouge quand même un petit peu, mais comme je disais tout à l'heure, ça bouge pas suffisamment vite compte tenu de l'avance prise par les cabinets d'avocats, mais faut penser pas uniquement au cabinet, en effet, à tous les autres intermédiaires et aux paradis fiscaux. Et de ce point de vue-là, je pense, et il peut y avoir encore 1, 2, voire 10 autres gros scandales, on sera loin d'avoir mis la main sur l'ensemble et l'étendue du problème.
Alors parmi les conséquences des Panama Papers, il y a quand même eu au niveau du Parlement européen la mise en place d'une commission d'enquête sur ces révélations. L'enquête n'est pas terminée. Est-ce qu'on peut espérer, Christian Chavagneux, que ça débouche sur une réglementation plus dure, notamment en termes de transparence, d'obligation de transparence pour les banques?
Ça va déboucher sur quelque chose, c'est sûr. Il y aura des propositions fortes. On a quelques échos de la façon dont ça se passe. Vous vous retrouvez avec députés de droite et de gauche du Parlement européen qui se retrouve par exemple au Delaware il y a quelques semaines, et on est surpris des échos qu'on a de ce voyage, de voir que les députés de droite sont pratiquement plus virulents que les députés de gauche maintenant pour lorsqu'ils découvrent ce scandale, pour dire il faut faire quelque chose. Donc le rapport nous est promis pour septembre-octobre, et d'après ce que nous disent les députés qui travaillent sur ce projet, sur cette enquête, va y avoir des choses assez importantes. C'est d'autant plus important de travailler sur sur les intermédiaires qu'on est, comme disent les économistes, sur un marché d'offres. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a des riches, ils veulent échapper à l'impôt, donc ils viennent demander aux gens, bah, venez m'aider. Non, on est plus sur un marché d'intermédiaires qui construisent des produits financiers et d'optimisation fiscale agressive complètement opaques, qui vont les proposer, et il y a une forme même de démocratisation, entre guillemets, puisque c'est pas simplement les Liliane Bettencourt et consorts qui sont ciblés, mais des gens qui sont à des niveaux de revenus très aisés, mais inférieurs aux millionnaires, aux milliardaires qui sont traditionnellement ciblés. Moi, je propose une labellisation, de donner une note à tous ces intermédiaires dès que vous êtes pris la main dans le sac. Parce que les Ernst & Young, les KPMG, les Mossack Fonseca, on finit toujours par les prendre soit dans un pays, soit dans un autre. Donc la règle est la suivante. Dès que vous êtes pris la main dans le sac dans n'importe quel pays du monde, votre note est dégradée. Vous partez avec un 20 sur 20 et dès qu'on vous prend la main dans le sac, vous perdez la note. Et par exemple, en dessous de 15 ou de 14, vous n'avez plus le droit de conseiller les États, vous n'avez plus le droit de conseiller les sociétés cotées. Toutes les sociétés cotées utilisent tous ces intermédiaires. Tous les États utilisent ces intermédiaires. Donc voilà, à partir d'une certaine note, lorsque vous avez été trop pris la main dans le sac, eh bien vous n'avez plus accès au marché mondial et là vous les touchez au portefeuille. Je pense que ça pourrait être une mesure efficace.
Donc il s'agit bien encore une fois de jouer sur la réputation.
De jouer complètement sur la réputation.
Manon Aubry.
Juste pour préciser sur les questions de transparence, là où on en est au niveau européen, au niveau français, au niveau européen, il y a une révision de la directive qui introduit un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés écrans. Ça peut paraître technique, mais c'est qui se cache finalement derrière ces sociétés écrans et derrière ces prête-noms, ce qui est plutôt une bonne chose et clairement un impact direct des Panama Papers, parce que sinon, elle n'aurait pas été revue dans ce sens. Une deuxième chose qui est en cours de discussion, c'est s'agissant des multinationales, c'est la transparence de l'activité des impôts payés par les entreprises multinationales qui, dans le jargon, s'appelle reporting pays par pays public, qui est en cours de discussion au niveau européen. L'idée, c'est vraiment de savoir ce que font les entreprises multinationales, Total, Volkswagen et autres, dans tous les pays où elles sont présentes. C'est ce qu'on a déjà pour les banques. On veut l'étendre à l'ensemble des secteurs d'activité. Simplement, pour le moment, ce qui est sur la table, c'est une transparence limitée dans un nombre limité de pays, et ce sera difficile d'obtenir la photographie complète des activités des grandes entreprises. Je sais que le Parlement est assez virulent, le Parlement européen assez virulent sur la question, et j'espère qu'on pourra aller vers une transparence complète, sachant que en France, une mesure similaire avait été votée par le Parlement en France ces derniers mois, mais censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui fait écho au rôle du Conseil constitutionnel dont a parlé Christian Chavagneux, et qui est une vraie limite aujourd'hui aussi dans la régulation en France s'agissant de l'évasion fiscale.
Ça veut dire que l'action sur la transparence, elle ne pourra se passer qu'au niveau européen.
En France, on a épuisé les voies de recours à partir du moment où il y a une décision très contestable par ailleurs juridiquement du Conseil constitutionnel sur cette mesure de transparence qui a argué du fait que ça nuisait à la liberté d'entreprendre alors que c'était des informations de base qui étaient demandées sur l'activité des entreprises. J'ai pas de doute que Auchan les disposait de ces informations sur Carrefour par exemple et qui en plus semblait omettre toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'évasion fiscale comme étant aussi un principe constitutionnel, y compris issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver confronté aux mêmes obstacles au niveau européen, Christian Chavagneux ?
Oui, juste pour compléter ce qu'il vient de dire Manon Aubry, moi je suis pour bien sûr ce reporting public, hein, pays par pays, qu'on sache exactement quels impôts elles paient, quel nombre de personnes qu'elles emploient, le chiffre d'affaires qu'elles font et les profits qu'elles paient. Mais lorsqu'on parle avec les négociateurs internationaux, ils nous disent, si on fait ça en Europe, les Japonais et les Américains nous ont dit, vous n'aurez absolument aucune information. On ne veut pas que les infos soient publiques. Donc c'est vraiment un travail au-delà de l'Europe, au niveau du G20, qu'il faut, de conviction qu'il va arriver à faire pour que ces informations que les administrations fiscales, dont les administrations fiscales vont pouvoir bénéficier, qu'elles soient mises sur la place publique.
Et ça, vous êtes optimiste, sur cette question au niveau mondial, d'obtenir une telle transparence au niveau mondial ?
Aujourd'hui, non. Mais qui aurait dit il y a 5-6 ans, lorsque les ONG ont proposé une comptabilité pays par pays, qu'on sera en train d'en négocier au niveau européen, au niveau mondial, donc ça avance quand même.
Dernière question pour vous, Maxime Vodano. Le scandale des Panama Papers est né grâce à une source, un lanceur d'alerte, qui a permis de dévoiler toutes ces informations. Est-ce qu'aujourd'hui, alors au niveau français, la loi dite Sapin 2 a permis notamment d'améliorer un petit peu le statut, la protection des lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles révélations grâce à cette protection ?
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avait été envisagé à un moment qui n'a pas été retenu, c'est de pouvoir éventuellement rémunérer les lanceurs d'alerte. ce qui permettrait de sortir certains lanceurs d'alerte de situations très difficiles dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui. Madame Guibaud, dans le scandale UBS par exemple, est dans une situation très difficile parce que voilà, elle s'est fait virer et puis elle se retrouve sans ressources. Donc il y a pas mal de protections qu'on aurait pu imaginer en plus. Et voilà, je ne sais pas si ça suffira à inciter des lanceurs d'alerte français à continuer, mais ce qui est catastrophique en termes d'image, c'est plutôt le procès LuxLeaks, puisque au-delà de la protection en France, si le Luxembourg continue à condamner des ressortissants français qui font sortir des documents du Luxembourg, ça sert à rien de les protéger en France, ils continueront à être condamnés au Luxembourg et à éventuellement aller en prison.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Manon Aubry, Christian Chavagneux, Maxime Vaudano, réécoute, podcast, commentaires, c'est sur franceculture.fr sur la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous suivre sur notre fil Twitter du Grain à Moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Antoine Tricot, Cyril Baer, Fanny Richer et Louise Fuseau. Réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son ce soir Yanis Djoudad. On se retrouve demain pour un débat sur la politique migratoire.